1988, pour la deuxième fois de l'histoire, les Jeux Olympiques ont lieu en Asie, à Séoul. Personne ne l'imagine à l'époque, mais il s'agit des derniers Jeux de la guerre froide. Lorsque le 2 octobre 1988 se clôturent les Jeux de Séoul, la Corée crée la sensation avec une étonnante 4e place au tableau des médailles, fruit d'une importante préparation. Mais il y a plus étonnant. Les États-Unis sont seulement 3e, devancés par 2 pays qui auront disparu lors des prochains Jeux Olympiques. Dans l'ordre, l'URSS, 55 médailles d'or, et la RDA, 37. La RDA, la République démocratique allemande, autrement dit l'Allemagne de l'Est, sous régime communiste, avec en vedette la nageuse Christine Otto et ses 6 médailles d'or. Après la chute du régime communiste, on apprendra qu'on donnait aux sportives féminines, dès l'enfance, des petites pilules présentées comme des vitamines, et qui en réalité contenaient des hormones mâles, au risque de les rendre stériles en bloquant leur production d'ovocytes. On comprend mieux pourquoi la RDA performait surtout dans les compétitions féminines. Le dopage n'est pas réservé aux pays communistes et Séoul connaîtra un cas célèbre, on y reviendra, mais en Allemagne de l'Est, il s'agissait d'un dopage organisé par l'État. La RDA cessera d'exister en 1990 avec la réunification allemande. Quant à l'URSS, elle se disloquera en 15 républiques fin 1991. Dans l'histoire des Jeux Olympiques, Séoul aura donc été leur chant du cygne. Et le paradoxe, c'est que ce chant du cygne a lieu dans la péninsule coréenne, le seul endroit du globe où la guerre froide va laisser une trace tangible. Le rideau de fer et le mur de Berlin tomberont l'année suivante, mais en Corée, une frontière hermétique continue d'exister sur le fameux 38e parallèle, héritage direct de la guerre de Corée de 1953. Et si l'olympisme parvenait à franchir cette frontière? Le CIO en rêve et pousse les Sud-Coréens à accepter de laisser des compétitions se dérouler au nord. Problème, les Nord-Coréens sont gourmands. Ils veulent la moitié des épreuves. Pas question pour le Sud, qui propose quelques courses cyclistes et compétitions mineures. Un an avant les Jeux, les pourparlers échouent et Pyongyang annonce le boycott. Mais ici, au contraire de ce qui s'est passé 4 ans plus tôt à Los Angeles et 8 ans plus tôt à Moscou, ce boycott sera très limité. Seuls quelques pays emboîtent le pas à la Corée du Nord, comme Cuba ou le Nicaragua. Mais il semble bien que le tout-puissant dirigeant nord-coréen Kim Il-sung est prêt à tout pour empêcher les Jeux de Séoul d'avoir lieu, au point d'avoir commandité une action terroriste. 10 mois avant les Jeux, un Boeing sud-coréen explose en plein vol avec ses 115 passagers et membres d'équipage. Arrêtée, une femme passe aux aveux. Elle est agent secret nord-coréenne et a déposé une bombe à retardement dans l'avion. Elle demandera pardon aux victimes et dira avoir agi directement sous ordre du fils du président d'alors, Kim Jong-il, père du président actuel. Oui, c'est une dynastie héréditaire à Pyongyang. Contraste absolu avec la Corée du Nord, les Jeux de Séoul marquent au contraire le passage de la Corée du Sud à la démocratie et coïncident avec le décollage économique du pays. Séoul change de visage avec la création d'un métro, l'épuration du fleuve, la diminution drastique de la pollution de l'air par le charbon. Ces investissements, directement liés à l'accueil des Jeux Olympiques, vont faire figure d'élan économique et cela se conjugue avec, au plan politique, l'établissement de la démocratie consacré 7 mois avant les Jeux par la nouvelle Constitution. Tout n'est pas résolu, le pays connaîtra de graves problèmes de corruption, mais Séoul 1988 reste un exemple de ce que l'accueil des Jeux Olympiques peut créer, une dynamique positive dans un pays. Moins positif par contre, les Jeux de Séoul restent aussi associés à un des cas de dopage les plus emblématiques de l'histoire des Jeux. On vient d'évoquer le dopage d'État organisé par l'Allemagne de l'Est, mais qui sera révélé après la chute du mur de Berlin. Il y aura aussi le cas de 2 médaillés d'or haltérophiles bulgares, qui entraînera l'exclusion de l'ensemble de l'équipe. Mais le dopage n'était décidément pas réservé aux pays de l'Est. À Séoul, la finale du 100 mètres oppose le quadruple médaillé de Los Angeles, Carl Lewis, et le Canadien d'origine jamaïcaine, Ben Johnson.
Et le départ est bon. Le départ est bon, c'est Johnson qui est bien parti. Johnson, attention dans le couloir numéro 1. Johnson est en face, c'est Johnson. Et c'est Ben Johnson, médaille d'or. Ben Johnson, 9,79, un nouveau record du monde.
Victoire et nouveau record du monde. Ben Johnson fait figure de nouvel héros planétaire, mais pour moins de 48 heures. Testé positif aux anabolisants et aux hormones de croissance, sa médaille lui est retirée. Suspendu 2 ans, il sera à nouveau contrôlé positif et radié à vie. Ben Johnson est à l'athlétisme, ce qu'Armstrong est au cyclisme. Mais derrière cette triche avérée, d'autres cas de dopage émailleront désormais l'histoire des Jeux. On dit un mot des Belges pour terminer. 2 médailles seulement à Séoul pour notre délégation. 2 médailles de bronze. Une en tir avec Frans Peters et une en judo avec Robert Van de Waal. À 34 ans, le médaillé d'or de Moscou 8 ans plus tôt a encore de beaux restes.